Donc, la question la plus importante à se poser est la suivante. Comment un commerce en ligne peut-il augmenter ses ventes, son trafic et son taux de conversion? Eh bien, qui dit question dit également réponse. À chaque mardi, vous aurez donc la chance d'entendre des experts d'un peu partout du milieu francophone. Abonnez-vous, prenez des notes et soyez attentifs. Bienvenue à tous au podcast Commerce Élite. Bienvenue à tous au nouvel épisode du podcast Commerce Élite présenté par l'agence Pure Commerce, un partenaire de croissance qui veut transformer votre commerce en ligne en commerce élite. Et aujourd'hui, on reçoit un invité spécial sur le podcast. Raphaël Paulin-Daigle, président de l'agence Splitbase, vient nous partager les meilleures pratiques à suivre en CRO quand on veut optimiser sa boutique en ligne. Bonne écoute! Vous le savez, Klaviyo, c'est le service emailing qu'on recommande et qu'on utilise largement pour tous nos clients chez Pure Commerce. Voici toutes les dernières nouveautés qu'on vous recommande d'utiliser. Numéro 1, pour vous assister dans les emails du temps des fêtes, Klaviyo peut maintenant vous aider dans l'écriture des titres pour les flows avec un assistant robotisé afin de maximiser votre ROI. Oui, les titres seront en anglais, mais vous pourrez facilement saisir l'idée et la traduire pour en faire des tests. Numéro 2, parlant de tests, n'oubliez pas que les flows sont maintenant munis de tests AB intégrés directement dans chacun d'eux. Comment tirer profit? Laissez un test et spécifiez à Klaviyo quelle métrique vous voulez optimiser, open rate ou encore click rate. Il va tester pour vous et vous indiquer quand un gagnant est élu de façon significative. Conseil de pro, ayez toujours un test en cours pour maximiser votre temps. Numéro 3, par ailleurs, l'éditeur 2.0 continue son évolution. Il commence à être poussé dans tous les comptes en novembre. À quoi sert le nouvel éditeur? Il s'agit d'une refonte totale de l'éditeur pour le rendre plus ergonomique et rapide, mais son plus gros avantage est le bloc universel. Mais Antoine, ça mange quoi en hiver des blocs universels? C'est un template très simple, mais qui est lié à tous les autres blocs du même nom dans vos campagnes Flow et Template, bien sûr. Par exemple, imaginez que vous ayez un URL à changer sur tous les emails. Si vous avez utilisé un bloc universel, pas besoin de trouver tous les emails avec ce mauvais lien. Un seul changement suffit. Magique, non. Numéro 4, un autre changement que Klaviyo a lancé touche les blocs dynamiques de produits. On met souvent ces blocs dans nos emails pour mettre en avant les best-sellers sans devoir les choisir à chaque fois. Klaviyo sort une nouvelle itération, des recommandations de produits basées sur les comportements passés des clients. Comment ça marche? On peut afficher des produits basés sur les View the Products ou les Added to Cart uniques pour chaque client, si on a une historique, bien sûr, du client. Et si c'est un nouveau client sans historique, proposons nos best-sellers comme avant. C'est une belle manière d'automatiser nos flows davantage sans se compliquer la vie. Numéro 5. Une des fonctionnalités les plus demandées a aussi été lancée dernièrement. La possibilité de programmer des pop-up. On peut maintenant activer un pop-up pour une période donnée et le désactiver lorsque la promotion est terminée. Parfait pour les flash sales de la Saint-Valentin ou de Pâques. Passez plus de temps à faire des stratégies plutôt que de désactiver des pop-up. Numéro 6. Toujours dans l'univers des pop-up, Klaviyo lance les pop plein de pages qui vous permettent de capturer l'attention des clients à 100%. À vous de choisir le bon message à afficher pour le faire convertir maintenant. Un dernier conseil pour avoir plus de conversions, utilisez le plein page avec un teaser sur fermeture. Le pop-up restera visible discrètement au camp où le client changerait d'idée. On reçoit aujourd'hui un invité exceptionnel, Raphaël Paulin-Daigle, fondateur de Splitbase, nous décortique comment lui et son équipe s'y prennent pour améliorer une page de vente d'une boutique en ligne. Sa stratégie, autant reliée au volet quantitatif que qualitatif, risque de grandement vous aider dans la croissance de votre entreprise, spécifiquement pour le Q4. Bonne écoute! Et on est de retour pour le volet discussion du podcast Commerce Élite et je suis aujourd'hui avec nul autre que Raphaël Paulin-Daigle, CEO et fondateur de l'organisation Splitbase. Splitbase qui est une agence qui se spécialise dans l'optimisation des pages de vente et également l'optimisation des sites e-commerce pour des marques très reconnues, surtout à travers les États-Unis. Raphaël, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Oui, merci de m'avoir sur ton podcast.
Et Raphaël, on va rentrer directement dans le vif du sujet parce que tu as beaucoup d'informations pertinentes à partager avec l'audience de Commerce Élite aujourd'hui. Peux-tu nous parler un peu du cas pratique, du cas client de sorti pour notre audience et qu'on va décortiquer ensemble.
Absolument. Donc, au fond, un des cas, c'est un de nos clients avec qui on travaille depuis presque probablement 3 ans et demi, 4 ans à ce point-ci. Juste pour mettre le public en contexte, quand cette entreprise-là, donc l'entreprise s'appelle Dr. Squatch, c'est une marque de savon pour les hommes, très connue aux États-Unis, on fait des publicités dans le Super Bowl, donc une compagnie avec forte croissance, c'est sûr. Quand ils ont approché, bon, c'est encore une petite entreprise, vraiment, tu sais, ils étaient peut-être 10 personnes, en tout cas, c'était pas très gros, mais le problème, au fond, auquel ils faisaient face, était pas mal le même que la plupart des entreprises qui nous rejoignent. Et ça veut dire que, eux dépensent énormément mensuellement sur des publicités, publicités Facebook, Instagram, bien sûr aussi dans le SEO, publicité Google et ainsi de suite. Bon, maintenant qu'ils investissent autant puis tout ça, c'est sûr qu'ils veulent s'assurer que leur site web performe. Donc, notre job vraiment, c'est de s'assurer, OK, comment on peut faire pour améliorer l'expérience utilisateur? Fait qu'une de mes exemples préférés, par exemple, c'était une optimisation de la page produit. Une des choses qu'on a faites, on a regardé, OK, bon, un savon, ça coûte quoi? Ça coûte 7 $ environ, je pense que c'était 7-8 $ pour une barre de savon. C'est sûr que si les gens achètent seulement une barre de savon à 7 $ ou 8 $, c'est pas génial dans le monde du e-commerce. C'est sûr que les marges sont pas immenses. Donc, un de nos buts principaux était pas juste d'augmenter le taux de conversion, mais on essayait de comprendre, OK, comment on peut augmenter le average order value, donc vraiment la valeur moyenne de l'achat. Pour faire ça, on est allé voir dans les données, puis on s'est posé la question. Bon, est-ce qu'il y a d'autres produits qui est populaire que les gens achètent avec une barre de savon qu'on pourrait peut-être mettre en bundle? Ou est-ce qu'on peut ajouter ce qu'on appelle, tu sais, des upsells, par exemple, sur la page produit ou dans le cart et tout ça? On a fait certaines interventions comme ça, mais la chose qui était la plus intéressante, c'est qu'on a découvert en regardant les chiffres dans Google Analytics qu'il y avait quand même plusieurs personnes qui achetaient plus qu'une barre de savon à la fois. Quand on regardait les sondages qu'on avait fait auprès des clients de la marque, une chose qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait beaucoup de familles qui achetaient ces barres de savon-là. Donc, c'était par exemple une mère de famille qui achetait pour ses fils et son mari, par exemple. Donc, c'était pas nécessairement seulement... Quand les gens achetaient en grande quantité, c'était pas nécessairement une personne qui voulait en acheter une dizaine pour pas en manquer et ainsi de suite. Il y avait vraiment d'autres cas similaires. Donc, ça qu'on a essayé de comprendre, c'est bon, si on peut faciliter l'achat d'une plus grande quantité, c'est déjà une action qu'un certain nombre de personnes font. Fait qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens achètent plus de savon? Bon, la page produit, d'antan, avait aucun champ pour indiquer la quantité. Il n'y avait pas de drop-down pour choisir un savon, deux savons, trois savons. Mais on s'est rendu compte que la plupart des gens achetaient entre 1 et 3 savons, puis qu'il y avait très peu qui achetaient plus que 3 savons à la fois. Puis on a commencé à expérimenter, puis on a dit, ben, si on ajouterait, par exemple, un champ de quantité, est-ce qu'on peut faire réfléchir les gens et peut-être leur faire penser, hey, peut-être que je veux en acheter plus qu'une barre de savon, tu sais. Fait qu'en faisant ça, finalement, on a fait plusieurs itérations, on a pris plusieurs épithètes, à trouver vraiment la bonne façon. Mais si vous allez sur le site web aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a 3 boutons. Donc, 1 soap, 2 soaps, 3 soaps. Et au fond, on donne seulement 3 options que les gens peuvent cliquer dessus et ajouter soit 1 savon, 2 savons, 3 savons au panier. Et par défaut, le 2 savons est sélectionné. Et ça, spécifiquement, là, on a augmenté le revenue per user quand même, proche de 50% pour les gens qui achetaient des savons. C'était un assez gros impact qui, 4 ans plus tard aujourd'hui, est encore disponible sur le site web. C'est encore là. Donc, c'est un exemple parmi des centaines de tests qu'on a probablement fait sur ce site web-là.
Et puis, ce qui est intéressant, puis merci beaucoup de l'information, Raphaël, c'est que faut que les gens comprennent, notre audience qui nous écoute aujourd'hui, c'est que oui, on veut en tant qu'entreprise faire en sorte que les clients reviennent. Mais sachez une chose, si vous avez des returning customers, des gens qui reviennent sur votre site web à la hauteur de 30, 40, 50 % qu'on est capable de voir, c'est des excellents chiffres. Et tout de même, ça reste qu'il y a 6 clients sur 10 qui ne réachèteront pas chez vous. 5 clients sur 10 qui ne réachèteront pas chez vous. Donc, le point est, S'il y a plus de 50 % des clients en moyenne qui achètent une seule fois chez vous, assurez-vous qu'au moment de l'achat, la valeur du panier moyen soit le plus haut possible. Parce que peut-être que c'est la dernière fois que vous allez faire affaire avec ces clients-là. Donc, on doit s'assurer d'augmenter et de tout faire pour augmenter le panier moyen le plus possible. Et j'imagine, Raphaël, dans vos analyses chez Splitbase, quand vous regardez des clients, ça doit être une des premières réalisations, une des premières analyses que vous faites.
Absolument, parce que quand on pense au monde du e-commerce, là, on s'entend que les coûts d'acquisition de clients augmentent sans cesse. On a vu dans la dernière année que les coûts de shipping ont augmenté sans cesse également. C'est sûr que ça stabilise un peu présentement, mais ça a quand même augmenté d'une façon phénoménale. Donc, au fond, on peut soit se croiser les doigts et espérer que les gens achètent, par exemple, si on utilise l'exemple du savon, qu'ils achètent une barre de savon, puis que le mois prochain, quand on n'en a plus, ils reviennent, puis ils en rachètent. C'est sûr qu'on laisse ça avec la chance. C'est sûr qu'on laisse ça à la chance, puis ça nous permet pas nécessairement non plus d'augmenter les marges. Tandis que quand on vend avec un plus gros panier d'achat, par exemple, 3 savons, 4 savons, 5 savons à la fois, ça nous permet d'absorber les coûts pratiquement instantanément. On n'a pas besoin de payer les frais de shipping 2 fois. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs avantages à ça quand on augmente la valeur du panier d'achat. Et on est beaucoup plus en contrôle également du processus d'achat quand on fait ça.
À tous les auditeurs du podcast Commerce Élite, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Est-ce que la croissance de votre commerce en ligne va à la vitesse dont vous le souhaitez? Est-ce que dans votre plan marketing, vous avez la bonne balance entre campagne Facebook et Google Ads, stratégie emailing adaptée ou encore création de vidéos natives? Chez Pure Commerce, on s'est aperçu à travers les années que nos clients en commerce électronique qui avaient la croissance la plus forte possédaient chacun des éléments mentionnés plus haut. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a bâti une agence 100% dédiée à la croissance des boutiques en ligne, en offrant tous les services qu'un commerce électronique se doit d'avoir pour grandir. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire de croissance pour terminer l'année en force, rendez-vous au purecommerce.co/analyse. Donc, je le répète, purecommerce.co/analyse, analyse, ou encore venez me parler directement sur LinkedIn afin qu'on puisse regarder comment on peut vous aider. Je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels. De retour à l'épisode en cours. Souvent, les gens font beaucoup de bruit sur les revenus qu'ils font, mais très peu de bruit sur le profit qu'ils font avec leur boutique en ligne. Et soyons honnêtes, le profit, plus souvent qu'autrement, vient de l'augmentation du panier moyen que tu es capable d'avoir. Parce qu'on le sait, si on augmente le panier moyen, le coût de shipping peut-être va augmenter un peu, mais on va être diamétralement opposé que si vous payez 5 fois le coût de shipping pour 5 objets différents, envoyés à 5 moments différents, que 5 objets envoyés à un seul moment lors de la transaction. C'est des concepts simples, mais c'est important de revenir à la base des fois pour comprendre un peu un portrait économique d'une boutique en ligne.
J'aimerais ajouter, je pense que pour les gens qui nous écoutent aussi, c'est quand même important de penser à comment on peut créer des bundles, vraiment donc un regroupement de produits pour le vendre à nos premiers clients. Je pense que plusieurs entreprises vont lancer leurs produits, donc par exemple une entreprise dans le domaine de la beauté ou des produits pour la peau par exemple. Donc on a peut-être un déodorant, on a peut-être une crème pour la peau, on a un nettoyant pour la peau. Puis la plupart des entreprises vont seulement vendre ça individuellement. Tandis que le premier client, on veut qu'ils ont vraiment l'expérience de notre marque. On veut les vendre sur le plus de produits possible pour augmenter nos chances que ces gens-là reviennent. Donc, c'est en créant des bundles, par exemple, de plusieurs produits connexes qui se vendent bien ensemble, on a vu énormément de succès à travers presque toutes les industries. Puis ça permet aux clients, c'est sûr que ça permet pour l'entreprise d'e-commerce d'augmenter la valeur du panier d'achat, mais ça permet aux clients aussi d'essayer plus de produits, de potentiellement tomber en amour avec plus d'un produit de la marque, revenir, acheter plus. Donc, il y a vraiment des bénéfices extraordinaires quand on peut trouver la bonne bundle. Mais c'est sûr que ça sera peut-être pas la première qu'on crée qui va fonctionner, mais avec les tests, on peut facilement se rendre. Facilement, c'est peut-être un gros mot, là, mais on peut s'y rendre, c'est ça.
Une étape à la fois. Et j'aimerais faire du pouce un petit peu à ce que tu viens de dire, Raphaël. Donc, je suis convaincu que vous connaissez ce logiciel-là et vous en utilisez sûrement d'autres à l'interne. Donc, disons, on prend une boutique Shopify. Ici, un logiciel, et on en parlait récemment sur le podcast Commerce Elite, qu'on utilise beaucoup chez Pure Commerce, qui se nomme Tripleware, qui nous donne une compréhension économique assez intéressante du client. On est capable de savoir c'est quoi les meilleurs les meilleurs bundles qui se font ensemble. On est capable de comprendre un petit peu plus la cohorte d'investissement publicitaire. Bref, beaucoup d'informations pertinentes. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller écouter le dernier podcast. J'amène ça à ton attention avec une question très simple. Quand vous et votre équipe à l'interne, vous analysez un compte et vous voulez augmenter le panier moyen, faire en sorte d'intégrer un mix de bundles à la transaction finale, quel est le modus operandi que vous mettez en place de votre côté pour ultimement arriver à des résultats intéressants?
Très bonne question. Ben, je pense, au fond, la première chose, c'est on doit identifier où on perd le plus d'argent ou c'est où les plus grosses opportunités sur le site web. Parce que c'est sûr que, regarde, des techniques pour augmenter les conversions ou la valeur du panier moyen, par exemple, des tactiques, il y en a par milliers, sinon par millions. Mais au fond, on veut comprendre pour notre site, pour notre entreprise, pour ce site e-commerce-là, c'est où les problèmes? Où est-ce qu'on perd les gens? Donc, l'une des meilleures façons vraiment pour nous, c'est on va commencer par aller voir dans Google Analytics. Puis on va essayer de comprendre, est-ce qu'il y a un endroit sur le site web où les gens abandonnent leur achat souvent? Est-ce qu'il y a des produits en particulier où les gens ajoutent le produit à leur panier d'achat, mais finissent par abandonner? Donc, on veut commencer par identifier quels sont les endroits où on perd le plus de clients. Parce que généralement, si les gens ont ajouté un produit à leur panier, ça nous donne quand même un signal qu'il y a un certain niveau d'intérêt. Donc, on va généralement commencer par la fin du funnel, comme on va dire. Donc, par optimiser le panier d'achat, par optimiser aussi la page produit. Puis, on veut comprendre c'est quoi les objections. Donc, maintenant qu'on comprend peut-être quel produit ou quelle page de notre site web qui peut-être une certaine faiblesse où on voit une plus grosse opportunité, on veut comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis je pense que la grosse erreur que plusieurs agences, entreprises, marketers font, c'est que on oublie que à la fin de la journée, on peut regarder Google Analytics, on peut regarder aux chiffres dans Triple Whale, mais ça reste que c'est des chiffres. Mais les gens qui achètent de nous, les gens qui sont sur le site web, c'est des êtres humains. Et si ces gens-là abandonnent le processus d'achat, souvent c'est dû à peut-être une question sans réponse, peut-être à une peur, une objection, un doute sur le produit ou sur le shipping. Donc, la prochaine étape, vraiment, c'est d'aller comprendre quels sont ces doutes-là, quels sont les facteurs humains qui peuvent peut-être causer de la friction dans le processus d'achat.
Et donc, dans ce cas-là, et ça, c'est très, très intéressant. Merci de la réponse. Et je reviens au point. Donc, si on se pose la question du modus operandi pour analyser une page de vente, pour analyser un certain produit qui ne se vend pas assez et qu'on veut augmenter, disons, le panier moyen, est-ce que, de ce que je comprends, c'est un mix d'analyse sur du data quantitatif et également un très, très gros travail de sondage pour aller chercher l'information qualitative? Est-ce que comment les deux, ça rime bien ensemble?
Bon, les deux sont... C'est exactement ça. Au fond, on utilise les deux. Mais il y a quand même un certain processus à suivre parce que c'est sûr qu'on peut facilement se perdre dans les chiffres, mais on peut facilement se perdre dans le qualitatif aussi. Fait qu'on veut comprendre, premièrement, où devons-nous focusser nos efforts? Comment on fait au fond, il faut prioriser. Sinon, on peut tellement perdre de temps dans tout ça que ça va pas vraiment nous rapporter gros. Donc, c'est pour ça qu'on utilise vraiment le quantitatif au début pour comprendre, OK, moi, j'ai pas... T'sais, on n'a pas le temps d'analyser absolument tout, chaque page individuelle et de faire un sondage sur chaque page. Donc, avant, on veut vraiment déterminer quelles sont les pages ou les produits qui sont un peu plus faibles ou peut-être qui ont des plus grosses opportunités. Et c'est là-dessus qu'on va vraiment se fier pour, par la suite, faire des sondages et tout ça. Mais je pense que, tu sais, c'est sûr que nous, notre processus, on travaille généralement avec des compagnies qui font 10 millions et plus. Donc, le processus peut être quand même assez exhaustif. Cependant, je peux quand même recommander très fortement à tous les compagnies, peu importe leur grosseur, d'envoyer un courriel à leurs meilleurs clients et simplement demander pour du feedback ou demander genre « pourquoi avez-vous acheté de nous? » ou « qu'est-ce que vous aimez le plus de notre marque ou de notre produit? » Puis poser juste cette question-là, peu importe la grosseur d'une compagnie, je pense que c'est encore plus important de le faire quand on démarre une entreprise de e-commerce. Ça nous permet vraiment de comprendre c'est quoi les mots que les gens utilisent quand ils décrivent notre produit ou quand ils parlent de leur vie ou peu importe. Donc, ça nous permet vraiment de mieux comprendre le client, qu'est-ce qu'ils veulent ou peut-être quels sont les problèmes avec notre site web. Une deuxième façon assez simple, j'ai quand même plusieurs amis qui ont des compagnies e-commerce qui vont regarder dans leur liste de clients récents, ils vont téléphoner, ils vont dire « Salut, moi c'est Marc, je suis fondateur de telle entreprise. » C'est sûr que certaines personnes vont accrocher, mais certaines personnes vont être super contentes, même impressionnées d'avoir un appel du fondateur d'une compagnie sur probablement qu'ils aiment. Et ça donne vraiment du feedback extraordinaire. Je pense que c'est quand même une bonne façon pour que tout le monde puisse le faire.
C'est fou comment c'est oublié, hein, de revenir à la base, d'aller prendre l'information de notre client. Très simplement pour, au final, améliorer son expérience au client. Puis si on améliore son expérience, on risque d'améliorer l'état de notre entreprise. Donc ça, c'est très intéressant. Si on vient à ton cas client que tu nous as parlé un petit peu plus tôt, Raphaël, on voit un peu, les optimisations ont eu de la pérennité, ont été faites il y a quelques années maintenant, elles sont toujours en place aujourd'hui. Quelles ont été les évolutions que vous avez faites au niveau des optimisations? Parce que bien entendu, à force, j'imagine, d'essais et d'erreurs, vous êtes arrivé à cette conclusion-là de 1, 2 et 3. Et là, vous avez eu certains résultats. Et là, par la suite, quand on a nos premiers résultats, quelles sont les itérations subséquentes qu'on intègre à une page de vente qui fonctionne déjà mieux qu'avant? Comment on s'y prend pour améliorer tout ça?
Très, très bonne question. C'est sûr que je pense que la première chose, on va revenir aux bases. Hein. On va essayer de comprendre, OK, nous, notre job dans tout ça, là, c'est d'aider l'entreprise à faire plus de profits, plus de revenus. Donc, maintenant qu'on a fait quelques itérations, par exemple, sur ce cas-là, donc le champ pour choisir la quantité du produit. À un certain point, on doit quand même choisir est-ce qu'il y a un bénéfice de continuer là-dessus et de le pousser plus loin, ou est-ce qu'il y a certains éléments sur le site web qui, à ce point-ci, ont peut-être plus besoin d'attention que celui-là. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une science derrière ça? Oui, c'est sûr qu'on fait des calculs, par exemple. Bon. Le champ de quantité, si on améliore la performance de ça par un autre 5%, ça veut dire quoi en termes de revenus additionnels? Et par exemple, si on améliore le processus du checkout par 5%, ça représente quoi? Donc, quand on fait ces petits calculs-là, on est capable de déterminer est-ce qu'on est satisfait avec ce qu'on vient de faire ou est-ce qu'on commence à attaquer un autre aspect du site web. Fait que, c'est une partie, c'est une façon de le faire. C'est sûr qu'il y a plusieurs autres aspects qui vont se mêler dans la formule. C'est sûr que les buts de l'entreprise quelconque aussi vont avoir un impact. Mais vraiment, il faut quand même savoir où arrêter.
Puis, si tu disais peut-être dans un ordre de priorité, habituellement, bien entendu, on le sait, ce n'est pas une science exacte. On est davantage dans un art que dans une science, malgré que ultimement, plus qu'on est capable de faire des optimisations, plus qu'on est capable de peut-être transformer cet art en une science qu'on contrôle davantage. Mais avec les années d'expérience que tu as, Raphaël, maintenant dans l'optimisation des pages de vente, spécifiquement pour des boutiques en ligne qui ont une très belle croissance, si tu avais à me décrire dans un ordre de priorité, 1, 2 et 3, les points fondamentaux que vous changez sur une page client, quels seraient-ils ces points?
Ouais, c'est sûr qu'il y a aucune réponse qui va être la bonne pour toutes les entreprises. Mais je dirais que plus souvent, en général, les choses qui créent de la friction dans les boutiques qu'on analyse, c'est un manque de clarté au sujet de la politique de retour pour plusieurs entreprises, et aussi au sujet du shipping. Donc, c'est sûr aussi, si on vend à l'international, une chose que plusieurs entreprises ont tendance à oublier, c'est que la façon que le shipping fonctionne au Canada, par exemple, est très différente de comment ça fonctionne soit en Europe ou aux États-Unis. Les entreprises américaines ont souvent tendance à oublier que s'ils envoient au Canada, nous, à la réception du colis, on va devoir payer des frais de dédouanement. Donc, ça, par exemple, le consommateur canadien, quand il va regarder un site web américain, il va se demander, est-ce que je vais devoir payer des douanes à la réception du colis? Donc, ça, c'est un exemple, par exemple, qu'on voit constamment. Mais je pense aussi, tu sais, on pense aux produits, par exemple, pour la peau, les produits de beauté. Les gens veulent une garantie quelconque. Donc, par exemple, si j'achète une crème pour la peau, est-ce que c'est bon pour les peaux sensibles? Est-ce que c'est bon pour les peaux susceptibles à l'acné? Si ma peau est sèche, si la crème a coûté 100$, puis finalement, ça m'assèche la peau, est-ce que je peux le retourner ou est-ce que c'est une perte totale? Donc, c'est des petites différences qui peuvent vraiment changer le processus d'achat au complet. Il faut vraiment gagner la confiance du client. Je pense que c'est ça vraiment l'importance pour qu'une marque en ligne gagne le client, c'est de créer cette confiance-là. Comment on le fait? Ben, c'est sûr que les gens peuvent pas essayer le produit à travers leur écran. Mais quelles garanties pouvons-nous donner pour minimiser tout ça?
C'est vraiment la question. C'est fascinant même. Puis, en fait, je serais curieux de savoir un peu pour arriver, puis on risque de terminer là-dessus, pour arriver à ces optimisations de pages de vente, quelle est l'équipe un peu qui va travailler avec toi? Est-ce qu'on parle davantage d'une équipe de rédaction? Est-ce qu'on veut une équipe, bien entendu, va avoir du design qui va être fait sur l'amélioration des pages de vente? Est-ce que tu as des équipes de contenu plus poussées, des gens qui font que de la recherche? Quelle est l'équipe idéale que les gens qui nous écoutent aujourd'hui auraient besoin de développer ou d'aller chercher même s'ils veulent améliorer l'optimisation, la conversion de leur page de vente pour leur boutique e-commerce?
Ouais, très bonne question. Ben, je pense au fond que l'optimisation de taux de conversion ou de n'importe quel chiffre que vous voulez optimiser au fond, là, c'est quand même quelque chose qui peut se faire à une personne. Dans le sens, si vous parlez à vos clients tous les jours et vous réalisez que, OK, il y a certaines questions que vous avez pas adressées sur votre site web, pour moi, c'est une optimisation qui en vaut la peine puis qui se fait à une personne, comme j'ai dit plus tôt. C'est sûr que par exemple, si on veut commencer à faire des tests un peu plus poussés, on veut construire des landing pages, on veut vraiment voir qu'est-ce qui fonctionne mieux. Donc vraiment, si on est une entreprise qui fait peut-être quelques millions en revenus, on va être plus de ce côté-là. C'est sûr qu'on commence à avoir besoin d'une équipe de design, d'une équipe de rédaction. Donc, par exemple, pour nous, pour les clients qu'on sert, on a quand même une équipe de développement web, une équipe de rédaction, de recherche. Différents types de recherches, quantitatifs et qualitatifs. On a quand même besoin de quelqu'un qui gère le projet parce qu'il y a tellement d'aspects à tout ça. On peut facilement s'y perdre aussi. On a besoin de quelqu'un qui gère la stratégie. Et on a une équipe de design aussi. Donc, ça demande quand même beaucoup. C'est contrairement, par exemple, à certains autres aspects du marketing digital, comme par exemple les publicités Facebook, qui requiert quand même plusieurs personnes pour vraiment faire ça d'une façon assez rapide et d'autres qualités. Ici, pour juste lancer un test, par exemple, parfois on a besoin de 5-6 personnes. C'est pour ça qu'il y a très peu d'entreprises qui le font bien à l'interne, puis que généralement, on veut seulement voir des équipes d'optimisation à l'interne chez des très grandes entreprises. Puis généralement, les entreprises vont faire affaire avec des agences qui se spécialisent vraiment dans ça pour les plus petites entreprises. Mais c'est ça. Vas-y, excuse-moi.
Ben, c'est fantastique. Et si on veut travailler avec votre agence, où est-ce qu'on vous découvre, Raphaël?
Ouais, on peut nous trouver sur le site splitbase.com. Donc, vraiment, on publie du contenu ici et là. J'ai aussi mon propre podcast, le Minds of E-Commerce podcast, en anglais. Mais il y a le podcast, le site web, le blog, et ouais, c'est Twitter aussi, une fois de temps en temps, ou LinkedIn. Bon, on va toutes les nommer.
Fantastique. On mettra des liens dans les notes de l'épisode. Raphaël, c'était excessivement précis, concis, en 20 minutes. On voit qu'on parle à un expert. Merci beaucoup d'avoir donné des conseils totalement fascinants à notre audience aujourd'hui. J'espère que vous allez jeter un petit coup d'œil au site web de Splitbase. Si vous cherchez, bien entendu, une équipe pour optimiser vos pages de vente et, bien entendu, optimiser votre boutique en ligne. Raphaël Paulin-Deg, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Commerce Élite.